Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de la première saison des figures marquantes de notre histoire. Une série, je vous le rappelle, qui est consacrée aux grands personnages qui ont fait l'histoire du Québec dans toutes les sphères de l'activité humaine. Or, ce soir, il sera question d'un personnage bien connu, Jacques Parizeau. Jacques Parizeau qui est né en 1930 et qui est décédé tout récemment, en 2015, comme vous le savez. On peut dire que Jacques Parizeau est le fils d'une bonne famille bourgeoise qui a reçu la meilleure éducation possible. Une éducation qui va le mener au HEC au tournant des années 50, jusqu'à Londres où il va décrocher, en 1955, un doctorat à la prestigieuse London School of Economics. Durant les années fastes de la Révolution tranquille, il devient un conseiller de l'ombre, un conseiller absolument incontournable de Jean Lesage, de René Lévesque, et il va laisser sa marque sur des réformes vraiment fondamentales, des réformes économiques, bien sûr, qui vont marquer la Révolution tranquille. À la fin des années 60, il devient un homme politique, il sort de l'ombre. Il devient un homme politique, mais un homme politique pas comme les autres, qui se convertit à l'idée d'indépendance et qui devient une figure de proue d'un tout jeune parti, le Parti québécois, qui avait été fondé, comme vous le savez, en 1968. Lorsque ce parti prend le pouvoir en 1976, il devient un ministre économique incontournable, un ministre des Finances, président du Conseil du Trésor, et on peut dire que comme ministre des Finances, de 1976 à 1984, il a été aussi efficace que flamboyant. Il quitte la politique en 1984 pour des raisons de principe. Il y revient à la fin des années 80, 1988, pour diriger le Parti québécois. Et il va mener ce parti à nouveau au pouvoir en 1994, année où il devient donc premier ministre du Québec. Et pendant l'année qui va suivre, comme vous le savez tous et toutes, le Québec sera plongé dans une campagne référendaire passionnée et passionnante qui mènera à un résultat un peu dramatique, celui du 30 octobre 1995, une sorte de match nul. Alors, M. Parizeau a été un personnage qui n'a laissé personne indifférent. Et pour nous en parler, eh bien, nous avons invité son plus important biographe, qui lui a consacré 3 tomes qui ont été publiés au début des années 2000 et 1700 pages de textes imprimés. C'est dire que le personnage avait beaucoup de choses dans sa vie qui méritait d'être racontée. Il a dépouillé des archives, il a rencontré énormément de gens. Il a donc tenté de cerner ce personnage complexe et important sur donc 1700 pages. Il a été pendant 25 ans journaliste à Radio-Canada, notre invité, et par la suite, il s'est lancé en politique. Il est devenu, sous le gouvernement de Pauline Marois, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Pierre Duchesne. Bienvenue. Bonjour. On prend place. Donc, Pierre Duchesne, vous avez consacré cette biographie, je l'ai dit, 1700 pages imprimées. J'étais tellement impressionné, je les ai presque comptées. Et vraiment, qu'est-ce qui vous a motivé, parce que vous avez passé quoi, 7 années de votre vie, en oui. plus de votre travail de journaliste à temps plein, oui. vous avez consacré presque 7 années de votre vie à ce personnage. Qu'est-ce qui était le moteur? Qu'est-ce qui vous a motivé?
C'est l'homme et ses idées, sa franchise. Jacques Parizeau a toujours été l'homme du discours clair, la persistance dans l'action, l'intégrité et une conception de la politique qui est noble. Il y a une certaine noblesse. Et il y a une noblesse chez l'homme, il y a une noblesse dans la façon d'exprimer ses idées. Et ça nous manque beaucoup par les temps qui courent.
On connaît un peu les circonstances dramatiques de son départ de la vie politique. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir en face de vous un homme qui voulait régler des comptes?
Non. Mais Jacques Parizeau, pour ceux qui le connaissent beaucoup, savent que c'est un humaniste et il croit à l'humain et il a une vision plutôt volontariste, assez positive de l'humain ou de l'homme avec un grand H. Alors non, pas du tout. Généreux. Moi, j'ai plutôt vu quelqu'un de généreux qui comprenait la nature humaine, qui comprenait les défauts, les bons côtés et qui cherchait plutôt à témoigner. Mm-hmm. Parce que moi, il faut voir que quand je l'ai approché, je n'étais pas un personnage connu d'aucune façon. J'étais un jeune journaliste à la radio. Je n'étais pas sur la colline parlementaire. Je n'étais pas un journaliste politique. J'avais 32, 33 ans. Mais Jacques Parizeau a toujours eu un préjugé favorable à l'endroit de la jeunesse.
Oui.
Et pour lui, il y avait là quelque chose d'intéressant. On s'est mis à travailler.
Aviez-vous même le sentiment d'avoir un homme serein en face de vous?
À ce moment-là, oui. Parce qu'on parle d'entrevue 97, mm-hmm. 98 et des années. C'est sûr qu'il y avait des blessures chez l'homme. Parce que Jacques Parizeau, c'est un gagnant. Et il a gagné une bonne partie de sa vie. Il a tout fait pour que les Québécois soient inspirés par la réussite. Puis je veux dire, l'aboutissement de tout ça, c'est le pays. C'est de s'affranchir d'un régime politique qu'il jugeait tout à fait étouffant. Alors, c'est sûr que de terminer sur une défaite, même si c'est une courte défaite, quand vous êtes un gagnant puis que vous perdez, ben vous n'êtes pas de bonne humeur. Puis vous ne triomphez pas. D'ailleurs, il me disait qu'il trouvait toujours un peu étonnant que... On était souvent une nation des fausses victoires, des défaites qui sont des victoires morales. Ben, il dit non. Il dit quand on gagne, on triomphe. Et quand on perd, ben, on a le droit de ne pas être de bonne humeur. Alors, ouais. Il y avait quand même une blessure chez lui.
Alors, j'ai déjà entendu Jacques Parizeau citant un obscur roman des années 20 de Clément Vautel dire de lui « Je suis un affreux bourgeois », c'était le titre du roman, « et j'en suis fier ».
Oui.
Oui. Parlez-nous de la lignée de Jacques Parizeau, pour comprendre l'homme, parce que c'est un personnage assez particulier, un Québécois, un Canadien-Français au départ, mais un Québécois assez particulier dans ses manières, dans sa façon d'être. Parlez-nous de la lignée Parizeau.
Ben, c'est vraiment un bourgeois issu d'une famille bourgeoise, puis il en était fier. Parce que pour lui, la bourgeoisie, c'est une classe de société qui a l'habitude de l'argent, disait-il, et qui est capable de contribuer à sa société de par son savoir, de par des activités, et qui doit contribuer à sa société. Alors, il n'y avait pas là de rien de péjoratif, et il était fier de sa famille. Et son père aussi a écrit d'ailleurs un livre, « Joie et deuil d'une famille bourgeoise ».
Oui, ici.
Voilà. Et il en était fier. Alors, parce qu'il y avait son arrière-grand-père... Damas Parizeau, oui. Qui a été dans les affaires, marchand de bois, qui a participé à la création de la Chambre de commerce, puis des HEC dans les années 20. Son grand-père, Télesphore Parizeau, qui a fait des études, est allé à Paris, a fait doctorat en médecine, est devenu chirurgien et a été doyen de la faculté de médecine à l'Université de Montréal. Son père, dont il était particulièrement fier, qui était agent d'assurance, mais qui a bâti son entreprise, qui en a fait une des plus grandes entreprises de courtage d'assurance et de réassurance dans le monde. Sodarcan, c'était à l'époque où il est décédé, au milieu des années 90, c'était dans les 20e au monde, la 20e plus grande société. Alors, il était particulièrement satisfait de sa famille, des bourgeois qui s'étaient installés et qui avaient contribué à une certaine grandeur du Québec, ce qui n'était pas évident à l'époque compte tenu de la société puis de, je dirais, la mainmise économique qu'il y avait là, par une société anglo-saxonne.
Vous avez parlé de son père Gérard Parizeau, mais en tout cas, j'ai noté à quelques reprises, à la fin de sa vie, dès qu'on évoquait son père, il devenait très ému. C'est vraiment un personnage qui l'a vraiment marqué. Vous racontez d'ailleurs une anecdote quand il est ministre des Finances, on en reparlera. Mais son père, en quoi son père a eu un rôle si important dans son développement, diriez-vous, intellectuel ou dans sa manière de voir le monde?
Bien, Jacques Parizeau a dit je vivais dans une famille avant de vivre dans un pays. Compte tenu qu'on sait par la suite à quel point le projet de pays est important, ça révèle à quel point la famille, pour lui, a tout construit. Mmh. Puis il disait, à l'époque, je faisais des études, il y avait la bibliothèque, le Collège Stanislas, mais j'avais accès à la bibliothèque de mon père, qui était très généreuse. Et donc, son père a toujours été un modèle. Et son père, qui était lui-même, qui avait été au HEC, s'est assuré qu'il puisse aller au HEC. Et ensuite, l'a encouragé à aller faire des études à l'extérieur, et à Londres en particulier. D'ailleurs... M. Parizeau, père, ils ont eu trois fils avec son épouse, Germaine Biron, Mme Parizeau. Et les trois fils, c'était une des pensées du père, c'est de s'assurer qu'ils aillent faire un tour vers Londres, dans leur stage ou leurs études, parce que lui-même était d'assurance et savait qu'il fallait aller par Londres, il fallait aller dans la société anglaise pour être capable de s'affranchir d'une certaine situation. Parce que les Canadiens français étaient dans une situation de soumission. Et c'était une façon de s'affranchir. Et Jacques Parizeau, ça, a beaucoup remercié son père de ce passage. Et Jacques Parizeau en a d'ailleurs appris l'anglais avec un accent british parfait.
Oui.
La moustache est apparue à ce moment-là, le complet trois pièces, oui. Des souliers noirs et tout. En tout cas, il a bien oui. adopté l'uniforme.
Parlez-nous aussi de sa mère, Germaine Biron, une femme, oui. une femme forte.
Oui, parce qu'il faut en parler de sa mère, parce que des gens de la famille, de très près, me disaient que s'il y avait un côté austère chez Jacques Parizeau, ça venait du père, mais tout le côté très assumé, décidé, fonceur, venait aussi beaucoup de la mère. Germaine Parizeau, qui était une féministe pour son temps.
Une amie de Thérèse Cazerin,
oui,
dont on a
ils sont
parlé
allés faire, ils sont allés parader au Parlement pour demander le droit de vote pendant presque 10 ans. Hein, ça ne comprenait pas vite là-bas. Et alors, c'était une féministe qui, en plus, avait une façon de... qui voyait la religion clergé catholique avec beaucoup de méfiance. Parce que même, on dit qu'au moment du mariage, elle n'a pas voulu dire là, les mots traditionnels du moment, en tout cas, les a mâchouillés. Alors, c'est une femme de tête, puis qui s'est assurée avec son mari qu'il puisse aller au collège Stanislas,
oui.
qui était un collège laïque. Alors, replacez-vous dans les années 30, c'est quand même un choix, parce qu'on baigne là, dans le catholicisme avec tout ce que ça veut dire. Alors, sa mère a été très influente et jusqu'à la fin. Et donc, c'était deux. Le père et la mère étaient impliqués au niveau des... D'ailleurs, il y avait toutes sortes d'anecdotes, parce qu'à un moment donné, lorsqu'elle inscrit son fils au collège Stanislas, elle dit à une autre mère, Mme Choquette, parce qu'il va avoir
oui.
M. Choquette qui va être ministre de la Justice des années plus tard de M. Bourassa, et elle lui dit, « Mon fils va tous les dépasser. » Alors, vous voyez un peu le genre de maman que c'est.
Oui, très chauvine.
Oui.
Parlez-nous un peu du genre d'élève qui était Belette Vibrante, qui était son nom de scout.
Oui.
Oui, oui, pour ceux qui ne le savaient pas, Belette Vibrante était le... Comment on dit ça hein, pour le langage scout? Le totem. Voilà, oui. merci. Oui. Le totem de Jacques Parizeau. Quel genre d'élève était-il?
Ben, c'était un élève qui... très jeune, avait un regard très perçant, qui était très concentré et qui n'a pas au début été là tout de suite première classe. Hein, des gens qui ont été avec lui, même j'ai rencontré certains de ses vieux professeurs qui sont morts aujourd'hui, dont le professeur Boulizon, qui me racontait que plus les années avançaient, plus il s'est développé, il s'est révélé et il a dépassé les premiers, puis il est devenu un étudiant excessivement talent qui s'exprimait avec beaucoup de brio. Mais M. Boulizon disait qu'il avait un regard et qu'il pouvait intimider certains professeurs. Puis il posait des questions déjà très jeunes, constamment. Là, on, je sais que tous ceux qui ont eu des enfants savent que c'est une vilaine manie des fois chez certains jeunes enfants. Bien, lui, il en faisait partie.
Oui.
Il était particulièrement coriace là-dessus. Mais aussi, à un moment donné, au niveau du grec, il ne voulait pas apprendre le grec. Puis le professeur était le préfet de discipline aussi, était assez dur. Fait qu'il a bloqué. Et puis là, il y a eu 1 ou 2 0, puis à la maison, ça a très, très mal réagi.
Oui.
Et rapidement, il est devenu un très bon élève. Oui. Donc, il avait quand même du caractère.
Bien, vous parlez du caractère. Ici, j'ai une belle anecdote qui est racontée par justement Gérard Parizeau dans son livre sur « Joie et deuil d'une famille bourgeoise, 1867-1961 ». Alors, il raconte, Gérard Parizeau, que son père Télesphore trouvait qu'il laissait trop parler ses enfants à table, que ça distrayait les adultes pendant qu'ils étaient à table. Et là, il dit la chose suivante, Gérard Parizeau. J'arrivais du bureau, la tête grosse de soucis, endolorie, et il me fallait me prêter à des discussions sans fin. Mais quel service nous leur avons rendu ainsi, Germaine et moi, en leur apprenant à avoir des idées et à les exposer. Beaucoup plus tard, je me rappelle qu'un jour, nous discutions de la question de la Syrie. On est en 1942. Je disais, sans me douter que mes prédictions se réaliseraient, les Anglais ont tort de vouloir bouter les Français hors du Proche-Orient. Cela leur reviendra sur le nez comme un boomerang. Jacques m'écoutait, puis il me dit, « Papa, je ne voudrais pas être désagréable, mais tes idées me semblent un peu sommaires. Pour moi, les Anglais ne sont pas assez imprudents pour faire une chose pareille. » Il avait 12 ans. Jacques Parizeau, à 12 ans, qui avait des réflexions sur la Syrie.
Et tant qu'à y aller sur des citations, moi, j'en avais noté une de la mère qui s'attache bien à ce que vous venez de dire. Elle l'écrivait ou elle disait « Ce n'est pas en élevant ses enfants dans l'humilité et la résignation qu'on en fait des hommes. » Elle était le père aussi. Hein? Il s'agissait, il y a une très belle citation que j'ai retrouvée, parce que le père a beaucoup écrit. Il a écrit des pages de journal, ça s'appelle, oui. C'est 12 volumes, où c'est un peu sa vie, puis la vie de sa famille. Et puis il raconte comment il faut bien former ses garçons, une indépendance d'esprit solide, comme ça on va en faire
de vrais
leaders.
Il avait beaucoup de réflexions sur l'éducation, Gérard Parizeau. Alors donc, il va ensuite aller à HEC Montréal, il va suivre les traces de son père. HEC Montréal, un mot, c'est une institution importante pour cette bourgeoisie canadienne-française. Un mot sur son importance.
Oui, mais ce n'est pas ce que c'est devenu par la suite. Ça commence, il y a peut-être 125 élèves, c'est né en 1920. Il
1907.
Je pense,
c'est ça, officielle. La première cohorte.
Et il est là vers la fin des années 40, 48, 49. Donc, c'est une institution naissante.
Oui.
École de commerce, c'est audacieux pour l'époque parce que le commerce, l'économie, c'est les anglophones. Donc, on essaie. Et là, il y a un professeur important, François Le Béranger, qui est un des rares économistes du Québec français, des Canadiens français, disait-on à l'époque, et qui voit, il voit ce regard d'ailleurs très, très lumineux de Jacques Parizeau, qui pouvait faire peur peut-être à certains professeurs du primaire, et il dit, il est très brillant et il faut qu'on l'encadre et il fera partie, c'était le rêve de François Le Béranger parce que j'ai réussi à l'interviewer avant qu'il décède. Et il disait, je voulais, moi, à l'époque, créer une phalange, donc 5-6 économistes canadiens-français qui allaient aider à éclairer la société, le gouvernement, pour qu'on puisse faire éclore une société plus libre. Et il avait vu en Jacques Parizeau cet élève, donc il l'a pris sous son épaule, il lui a permis ensuite d'aller en Europe parce qu'il y avait un salaire de professeur en même temps qu'il allait en Europe, ce qui était un privilège, mais c'était un des trucs administratifs qu'ils avaient. À l'époque, c'était Maurice Duplessis, le premier ministre, qui permettait ce genre de choses pour aider à avoir un petit groupe, une avant-garde économique.
Mmh. Sauf qu'une fois en Europe, François Albéranger veut un doctorat français. Et Jacques Parizeau va à Londres. Alors, pourquoi ce choix de Londres et comment ça, c'est encore
alors, Angers, on comprend son choix, hein? Canadien-français, donc il dit ça va venir de la France, ça va être encore plus facile. Et non, Jacques Parizeau conçoit déjà que lorsqu'on parle d'économie, lorsqu'on parle de tout ce secteur, c'est l'Angleterre, c'est Londres, et l'influence du père agit fort possiblement là-dessus. Et j'ai accès, parce qu'il écrivait, vous avez lu tout à l'heure une lettre aux parents, mais il a écrit beaucoup de lettres à ses parents. Et il écrit aussi des lettres à François Le Béranger. Et là, on voit le jeune homme qui, en plus, a un salaire de professeur. Donc, il y a un rapport, il n'y a pas un rapport de... Il y a un peu un rapport de soumission avec le professeur, mais malgré ça, il exprime dans ses lettres ses opinions, sa logique. Et il y a 3 ou 4 lettres. Il y a un échange de lettres. Imaginez, c'est assez long à l'époque pour que les lettres traversent l'Atlantique. Et François Le Béranger insiste, mais le jeune étudiant insiste à nouveau, puis il dit non. Alors finalement, il va avoir quand même un diplôme français, mais va aller faire un autre doctorat en Angleterre à la London School of Economics.
Donc, il revient au Québec en 1955, dans un Québec dont il n'apprécie pas nécessairement l'atmosphère.
Ah ben là, ça, il faut dire, il ne voulait pas revenir.
Ouais.
Et François Le Béranger lui avait dit, très bien, on vous paie, vous allez là-bas, mais vous revenez après, parce que toujours le rêve d'Angers, d'avoir ses... Et là, il me disait, puis il l'a dit à d'autres, il dit, vous savez, je n'avais pas signé de contrat. C'était un engagement verbal, c'est un engagement moral que je revenais. Et là, je me suis aperçu que je ne pouvais pas contrer ou aller contre cet engagement-là parce que je voulais rester à Londres. Il y avait un chemin, un beau chemin qui s'ouvrait à moi. J'aurais été professeur, j'aurais fait le tour des grandes universités du monde. J'avais un entourage depuis Londres qui m'aurait permis d'être un professeur et qui m'aurait, je me serais investi dans l'enseignement. Mais il dit, je ne pouvais pas, j'avais un engagement avec François Le Béranger et je suis revenu. Et il revient d'un Québec qui, à l'époque, n'est pas du tout intéressant pour lui. C'est un Québec, moi j'appelle ce chapitre-là « Le retour dans le royaume des dominés ». Puis c'est les années 50, c'est Maurice Duplessis, c'est étouffant pour Jacques Parizeau. Mmh. Et en plus, il revient dans une société où... Le Canada anglais domine. Là. En termes économiques, il voit bien que ce n'est pas évident. Mm-hmm. Une illustration de ça, c'est que l'université, les HEC, lui permettent de diriger la revue L'Actualité économique. Et il vend des abonnements à des universités du monde, puis au Canada, aux États-Unis. Et il essaie d'en vendre à McGill, puis McGill ne veut pas. Merci, McGill ne veut pas. Alors, il dit, très bien, il dit, on va vous le donner. Vous n'avez pas à acheter l'abonnement. Et McGill lui dit non. Il dit, on va vous le mettre sur un présentoir. On n'a pas de place pour les présentoirs. Alors, il me racontait cette anecdote, mais pour lui, ça faisait partie du mépris d'une certaine partie de la société, parce qu'à l'époque, il est fédéraliste. Il faut bien comprendre qu'il est fédéraliste. Ce qu'il y a d'intéressant, ce n'est pas Maurice Duplessis, c'est ce qui se fait à Ottawa. Les grandes mesures sociales, les grandes mesures économiques sont entreprises à Ottawa.
Alors, le temps file, sautons aux années 60, la Révolution tranquille. Comment, parce que là, il devient professeur à HEC, bon, il fait sa place.
Très bon professeur, les étudiants
oui,
sont...
Oui, il est impressionnant.
Certains d'abord, oublient de prendre leurs notes parce qu'ils l'écoutent.
Au départ, puis, il a presque le même âge que les étudiants. Il est très jeune, 25 ans à peine.
Oui.
Là, il trouve le moyen, puisque c'est quand même pas ses réseaux naturels, mais il trouve le moyen de devenir très rapidement un conseiller clé de Jean Lesage. Comment, en gros, s'y prend-il ou comment les circonstances se présentent-elles pour qu'il puisse jouer ce rôle?
Alors ça c'est un espace d'oxygène pour Jacques Parizeau parce qu'il aime bien l'enseignement, mais il voit bien les limites dans le Québec des années 50. Arrivent les années 60 et là, c'est l'éclatement, c'est une révolution.